Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire.
Et nous vous retrouvons en gare de Saint-Étienne, Franck Ferrand, en direct du train Europe 1 des municipales, en direct et en public. Bonjour,
oui,
Franck.
Bonjour Céline, bonjour à tous en public. Vous allez l'entendre, le public stéphanois d'ailleurs, qui est venu nombreux dans ce train Europe 1 des municipales. Bienvenue dans la ville symbole de l'industrie française. Vous allez voir pourquoi je vous dis ça. Je n'ai pas oublié l'époque où, tout enfant, je m'habillais en martien pour hurler « Allez les Verts !» et soutenir Platini, Rocheteau et les autres, les dieux du stade Geoffroy Guichard, le chaudron, comme on dit ici. Je me rappelle aussi la crise nationale de Manu France, dernier sursaut de la célèbre manufacture d'armes et de cycles, dont la revue Le Chasseur français, surtout le catalogue de vente par correspondance, auront marqué des générations. Mais la Saint-Étienne d'hier ne doit pas éclipser évidemment celle d'aujourd'hui, la cité du design dont l'école supérieure d'art est si réputée, ni, et c'est ce qui nous concerne nous évidemment ici, ni celle d'avant-hier, au temps où la cité naissante sur la route de Lyon au Puy-en-Velay a su bénéficier des dons que lui avait procuré la nature. Il y a ici du fer, du charbon, de l'eau en abondance et le gisement financier de Lyon, si j'ose dire, à portée de la main. Les bruits de cliquetis, de percussions, d'engrenages que nous sommes depuis bien longtemps habitués à identifier à l'activité manufacturière et industrielle, dites-vous que c'est ici, à Saint-Étienne, qu'ils ont pour la première fois retenti sur le continent. Au XVIe siècle, on fabrique déjà quantité d'armes, de mousquets, d'arquebuses, en attendant les fusils Chassepot, Gras et Lebel, bien entendu. Et puis, au siècle suivant, au XVIIe, des moulins à café, des mécanismes divers, et puis, beaucoup plus tard, bien entendu, les vélos, qui n'a en mémoire la superbe première bicyclette moderne de marque Hirondelle, avec selle suspendue et guidon en corne de bœuf, sortie de la manufacture à la fin du 19e siècle. La robustesse, la précision, l'esthétique s'imposent d'emblée comme les attributs imbattables des productions stéphanoises, au nombre desquels il faut compter aussi la rubannerie, bien entendu, dont les innombrables fabriques auront pendant plus de deux siècles tissé de quoi enrubanner la planète de fine passementerie. Dans cette émission, nous avons parlé récemment de deux Stéphanois célèbres, Jules Massenet, dont on a célébré l'année passée le centenaire de la naissance. Rappelez-vous, nous avions invité nos consoeurs, les sœurs Massenet, à venir nous parler de leur ancêtre. Et puis, le résistant et homme politique gaulliste Lucien Neuwirth, qui nous a quittés l'année dernière. Il y aurait bien d'autres figures à évoquer, comme le fait notre partenaire Historia dans un beau cahier consacré à Saint-Étienne dans son numéro de mars. Pour ma part, et puisque nous sommes dans ce train européen des municipales, nous sommes vraiment sur les voies, eh bien j'aimerais commencer cette émission en direct de Saint-Étienne par le rappel d'une des heures de gloire de cette ville, la naissance en 1827 de la toute première voie ferrée de France, installée pour acheminer vers la Loire la houille du bassin minier, cette ligne entre Saint-Étienne et Entrézieux, reste, on peut dire, le symbole d'un esprit tourné vers l'avenir et vers l'innovation.
Europe 1, au cœur de l'histoire.
Franck Ferrand.
C'est extraordinaire parce que pendant que je vous parle, le train qui se trouve sur la voie juste à côté de la nôtre est en train de se mettre en branle. Et comme les stores vénitiens sont baissés ici dans cette voiture, on a l'impression que c'est nous qui sommes partis. J'aimerais vous parler de ce tout premier chemin de fer continental. C'était en 1827. Il partait de Saint-Étienne, ce petit train. Dans un premier temps, il ne transportait pas de passagers, mais du charbon. Ça n'en était pas moins une incroyable nouveauté. Il faut vous dire que les Anglais, c'était souvent le cas au cours de cette révolution industrielle, avaient quelques longueurs d'avance sur nous, bien entendu. En 1802, ils avaient breveté la première machine à vapeur commerciale. C'était Viviane et Trevithick, rappelez-vous, on avait parlé de ça aussi. Le 12 août 1812, une première première traction à vapeur circule sur le Middleton Railways dans le Yorkshire. C'était un chemin de fer à crémaillère avec des locomotives qui remorquaient donc des wagons de charbon. Et en 1825, la première ligne de chemin de fer à utiliser des locomotives à vapeur en Angleterre voyait le jour sur une ligne qui faisait 40 km de long, 26 miles comme on dit là-bas. C'était également la ligne qui allait devenir très vite la première ligne de transport de voyageurs. Avant le chemin de fer, bien entendu, on utilisait la traction hippomobile, on utilisait les diligences. À la fin, dans les années 1780, à la fin du 18e siècle, la poste à cheval circulait en moyenne à 4 à 5 km heure. Au milieu du 19e siècle, on avait, grâce à l'amélioration des routes, mais aussi à l'amélioration des voitures, on avait réussi à pousser ça vers 15, 18 km heure. Mais, si vous voulez une comparaison, avec le train, vous multipliez tout par deux. Le train roule à 30, 35 km heure au moment de son lancement, ce qui nous fait peut-être sourire aujourd'hui, mais qui à l'époque est considéré comme une véritable vitesse. Cette première ligne française de chemin de fer, elle est donc ouverte le 30 juin 1827 et elle relie Saint-Étienne à Andrézieux, c'est-à-dire 21 600 km, et c'est la toute première ligne de chemin de fer d'Europe continentale. Alors pourquoi Saint-Étienne ? Parce que, et nous allons le voir dans un instant, au début du 19e siècle, Saint-Étienne est une ville minière. L'or noir, comme on l'appelle ici, le charbon, est transporté à dos de mulets et de bœufs de Saint-Étienne jusqu'à Saint-Just-sur-Loire, on est juste à côté d'Andrézieux, avant d'être acheminé dans des bateaux à fond plat qu'on appelle les rambertes, qui circulent sur la Loire et qui vont permettre ensuite de transporter tout ça jusqu'à Roanne, et puis de Roanne ensuite jusqu'à Paris. La route vers la Loire est empruntée quotidiennement en ce tournant du 19e siècle, cette fin du 18e. Elle est empruntée quotidiennement par plus de 200 chars qui sont chargés de charbon à destination de Paris, 200 chars par jour. Cette route est dans un état de délabrement qui dépasse toute description, nous disent les auteurs d'un ouvrage qui s'appelle « Une histoire de Saint-Étienne » sur lequel j'aurai l'occasion de revenir tout à l'heure. À l'origine de cette toute première ligne de chemin de fer, il y a un ingénieur, Louis-Georges Gabriel de Galois-Lachapelle. Depuis 1814, il est ingénieur en chef des mines à Saint-Étienne. Il a beaucoup voyagé, cet homme-là. Il a vu notamment le tout premier chemin de fer en Angleterre. Il s'est dit, voilà une invention extraordinaire. Il a imaginé ce que ça pourrait donner à appliquer, bien entendu, à l'industrie minière et à Saint-Étienne. Et il écrit à l'Académie des sciences en 1818, je cite, « Depuis longtemps, on faisait usage en Angleterre de chemins garnis de bois pour le roulage des mines. Les chemins de fer ne sont qu'un perfectionnement de cela. Il y a une trentaine d'années, ils ont été proposés par Mr. John Coor, qui était ingénieur civil à Sheffield. Les chariots sont sur des roues de fonte et quelquefois, ils sont entièrement construits en fer. Leur charge est d'environ 25 quintaux métriques. La plus petite inclinaison suffit pour que leur propre poids les mette en mouvement. 5 ou 6 de ces chariots enchaînés ensemble roulent à de grandes distances sans chevaux ni moteur, guidés par un enfant qui en modère simplement la vitesse au moyen d'un levier de friction ajusté aux roues. Lorsque la pente du terrain est plus rapide, ces chariots descendent un à un de la même manière. Un cheval est attelé derrière. Arrivé au bas de la côte, c'est le cheval qui remonte le chariot vide. Vous avez donc bien compris que le chemin de fer dont je suis en train de vous parler et dont nous sommes en train de célébrer ici l'innovation stéphanoise était un chemin de fer à cheval, si je puis dire. Au départ, il était tiré par des chevaux. Alors, Galois parle de ça à son ami Bonnier, qui étudie en 1812 le territoire houillé stéphanois, avant de lancer l'école pratique des mines en 1816, qui deviendra une véritable école d'ingénieurs. On aura peut-être l'occasion d'en reparler tout à l'heure. Il va aider son ami Galois à développer une ligne de chemin de fer à Saint-Étienne, et pour cela, il va se rendre lui-même plusieurs fois en Angleterre. Le projet initial vise à unir le Rhône à la Loire. C'est la route principale pour acheminer le charbon stéphanois. Or, je vous le disais, le chemin de fer est vraiment le bienvenu parce qu'à l'époque, La route en question est dans un état déplorable. On dit que les roues crissent, que les voitures se fatiguent beaucoup. Il y a des ornières qui peuvent aller jusqu'à 1 mètre. C'est une route complètement défoncée du fait de l'énorme trafic dont elle est l'usage.
Sur Europe 1, un extrait de la méditation de Thaïs. Nous revenons avec vous, Franck Ferrand, à la naissance de la première ligne française de chemin de fer.
Alors cette première ligne française, je vous dis, elle vient remplacer une route qui était dans un état déplorable à une époque où il faut imaginer Saint-Étienne en plein essor. C'est l'historien de la Dombe, Valentin Smith, qui écrit en 1828 « On voit chaque jour de nouveaux quartiers s'élever comme par enchantement. Ici, ce sont de vastes prairies tout à coup transformées en places, en rues, en maisons. Là, des gardiens qui, à peine ouverts au public, sont aussitôt couverts de lourds matériaux qui remplacent les gazons et les fleurs. Ailleurs, des rues étroites et malsaines tantôt s'élargissent, tantôt s'étendent et s'alignent devant de magnifiques percées qui assainissent la ville en rapprochant les distances. » On est donc dans une atmosphère qu'il faut imaginer, une atmosphère d'émulation, de dynamisme, d'enthousiasme tout simplement. Pour simplifier le projet ferroviaire, Gallois va proposer de relier Saint-Étienne à Andrézieux. Il faut donc une ligne de 23 km. Et le 5 mai 1821, il fait une première demande de concession qui est accordée en février 23 par ordonnance du roi Louis XVIII. Bonnier présente un tracé du chemin de fer le 8 décembre 23. Alors le point de départ est au pont de l'Âne sur la route de Monta, l'actuelle RN 88 si je ne m'abuse. À l'époque c'était la route royale de Lyon à Toulouse. Et puis ça va jusqu'à Andrézieux, jusqu'au port, hein, disons-le. C'est ça le but, bien entendu. Louis XVIII approuve le tracé par une autre ordonnance le 30 juin 1824. Alors là, Bonnier doit trouver les hommes pour fonder une compagnie en 24. Ce sera la compagnie du chemin de fer de Saint-Étienne à la Loire. Elle appartient à des hommes d'affaires ou proches du pouvoir ou à des hommes d'affaires qui, dans la région, ont déjà un nom très célèbre. Elle est autorisée par une nouvelle ordonnance royale le 21 juillet 1824 et la construction est lancée en 25. Alors il faut acheter bien sûr toutes les propriétaires. Il y a 122 propriétaires qui vont céder leur terrain. Le coût de la construction est élevé, 554 000 francs et 230 000 francs d'outillage. À l'époque, on parle de francs or des années, enfin du premier tiers du 19e siècle. C'est énormément d'argent, bien entendu. Les lignes sont en fonte. Il y a deux barreaux, hein, si vous voulez, en guise de rail. Le 29 juin 1826, la duchesse d'Angoulême, donc la fille de Louis XVI et Marie-Antoinette, la nièce du roi, vient en personne, enfin de l'ancien roi, mais de l'actuel aussi du reste, puisque c'est le roi Charles X qui a succédé à Louis XVIII. Elle vient en personne visiter le chantier, mais à ce moment-là, la ligne n'est pas achevée. Elle est mise en service seulement le 30 juin 1827. Elle sera livrée en août 1827, le temps de réaliser les essais nécessaires. Il faut 2 heures à la descente et... avec le cheval, bien entendu, 4 heures à la remontée. Vous avez bien compris que cette ligne, elle ne fonctionne pas comme nos lignes d'aujourd'hui. Elle fonctionne en partie par gravité, hein, tout simplement. Alors, le transport des voyageurs viendra ensuite. Il n'a pas été prévu à l'origine. La ligne pour accueillir les voyageurs, elle sera parallèle. Elle sera inaugurée en 1832. Alors, il faut imaginer les toutes premières voitures de voyageurs, de gros omnibus qui changent de roue parce que le départ se fait sur la place de l'hôtel de ville de Saint-Étienne avec des roues ordinaires. Et puis, quand on arrive à la gare pour arriver sur les rails, si je puis dire, ben là, on installe des roues adaptables. Et quant aux chevaux, ils seront remplacés par la vapeur en 1844. Là, c'est le grand changement, évidemment, ça modifie tout. En 1829, 150 chariots passent par le chemin de fer, c'est-à-dire 80 000 tonnes de charbon. En 1836, on est déjà à 117 000 tonnes et 36 000 voyageurs. Donc, assez vite, bien entendu, les voyageurs ont commencé à se faire à ce nouveau moyen de transport assez extraordinaire, bien entendu. Alors, après le succès de ce premier tronçon, un deuxième est construit, ce sera Saint-Étienne-Lyon, une nouvelle ligne beaucoup plus longue, celle-là, 58 km, qui va nécessiter l'achat de 900 parcelles, avec un coût considérable, presque 15 millions de francs de l'époque, hein, c'est énorme. On peut dire qu'avec cette deuxième ligne, l'État va prendre conscience de l'importance du développement de ce nouveau mode de transport. Et à partir de là, eh bien, on est déjà maintenant sous la monarchie de Juillet, c'est Louis-Philippe qui est le roi, et il va décider de lancer d'autres lignes de chemin de fer, et la plus célèbre, évidemment, celle dont le monde entier va parler, ce sera la ligne de Paris à Saint-Germain-en-Laye. On peut voir d'ailleurs, au musée du Vieux Saint-Étienne aujourd'hui, on peut voir un très vieux billet qui date de 1834. C'est le plus vieux billet de chemin de fer français, et donc on peut dire par définition continental. Or, je me permets de vous signaler que sur le billet, il n'y a pas écrit « Compagnie du chemin de fer Paris-Rive-Gauche ou Paris-Rive-Droite ». Il y a bien écrit « Chemin de fer de Lyon à Saint-Étienne ».
Rappelons, chers auditeurs, que vous pouvez réagir tout au long de l'émission. Nous envoyez vos messages, vos questions par mail sur europe1.fr, Twitter, celui de Franck Ferrand ou hashtag SCDH, ou encore sur la page Facebook de l'émission. Dans un instant, sur Europe 1, nous vous retrouvons Franck Ferrand en direct du train Europe 1 des municipales à Saint-Étienne pour la suite de votre récit sur la première ligne française de chemin de fer. Et nous vous retrouvons en gare de Saint-Étienne, Franck Ferrand en direct du train Europe 1 des municipales, en direct et en public, avec vos invités pour nous parler de cette magnifique ville de Saint-Étienne, Pierre Yves Guyot, muséographe à l'agence Les Charrons à Saint-Étienne, et puis Grégory Charbonnier, attaché de conservation aux archives municipales de Saint-Étienne.
Bonjour messieurs, le public stéphanois vous applaudit. Alors, il faut revenir peut-être un instant, si vous le voulez bien, Grégory Charbonnier, sur cette invention, sur cette toute première ligne d'Andrézieux à Saint-Étienne, un premier chemin de fer qui n'est même pas à vapeur à l'époque.
C'est fondamental parce que, outre l'invention en elle-même, elle va permettre, c'est une des raisons pour laquelle Saint-Étienne va connaître un décollage industriel. Parce que Saint-Étienne a vu des initiatives notamment privées, vous avez parlé de Gallois, on peut parler de Bonnier également, oui. De Jackson. Donc ce sont des gens qui ont inventé des procédés pour travailler les aciers, les métaux. On a aussi une nouvelle énergie, c'est la machine à vapeur. Donc on produit, mais pour produire il faut vendre, et pour vendre il faut
pouvoir transporter. Voilà. Mais oui, voilà. Et Saint-Étienne, faut désenclaver en quelque sorte.
Voilà, Saint-Étienne est une ville de moyenne montagne, et le chemin de fer, vous l'avez dit, permet de toucher Paris notamment et la vallée du Rhône.
Alors cette innovation n'est pas une chose unique, car on peut dire qu'un certain nombre d'inventions dans le monde de l'industrie sont des inventions stéphanoises, Pierre-Yves Guyot.
Oui, alors il n'y a pas que le train effectivement, mais dans les mêmes périodes, dans les années 1830, il y a la machine à coudre.
Ça par exemple,
tout bête,
oui, voilà.
La machine à coudre, qui me paraît une chose commune aujourd'hui, va être avancée par Monsieur Tivier à cet endroit-là. Et pour rebondir sur l'histoire du chemin de fer, Saint-Étienne, se sentant enclavé, avait même imaginé un système de canaux, parce que le train n'existait pas. On se dit bon, les voitures, ça marche pas pour aller jusqu'au Rhône, c'est trop long, les chemins sont en mauvais état. Donc on va essayer de faire un canal qui irait jusqu'à Saint-Étienne. Et le canal va s'arrêter en cours de route, on va dire, le train arrivant étant bien plus efficace.
Oui. C'est très important cette histoire de canaux, parce que évidemment pendant des siècles les grands transports, tout ce qu'il peut y avoir d'un peu pondéreux, est passé par voie fluviale et par des canaux. Encore sous l'Empire, c'est-à-dire quelques années seulement avant l'invention dont on est en train de parler, on construisait partout des canaux pour justement développer l'activité et pour désenclaver des régions. Il n'y a pas que la machine à coudre. Il y a aussi, alors vous m'avez raconté ça avant l'émission, moi j'ignorais ce procédé, mais ce qu'on appelle le floculant. Expliquez expliquez-nous de quoi il s'agit.
Ah oui, alors ça va être un petit peu plus tard, mais l'industrie va demander des machines à vapeur et du coup il va falloir traiter l'eau. Les mines vont beaucoup salir, enfin on lave le charbon, on lave tout ça, on lave les métaux, etc., etc. Et donc on a de l'eau sale quelque part. Et on va mettre au point chimiquement un petit procédé qui va permettre, en fait, bêtement, quand vous avez de la, très très bêtement, quand vous avez de la poussière ou quelque chose dans de l'eau, vous mettez un produit chimique qui va devenir plus lourd, s'agglutiner autour des poussières et les faire tomber ou les faire flotter. Vous n'avez plus qu'à racler entre guillemets pour nettoyer l'eau. Et de cette histoire donc industrielle au départ va naître une société qui va évoluer, SNEF Schlumberger, qui aujourd'hui est le leader mondial des traitements de l'eau et notamment aussi du lavage du pétrole. Donc vous imaginez le.
Et ça aussi, c'est né à Saint-Etienne. D'où vient l'intérêt de Saint-Etienne et des Stéphanois pour le chocolat aussi, il y a un rapport avec.
Alors oui, là aussi, c'est encore à la fois d'anecdotique et à la fois d'industriel.
Et oui.
C'est-à-dire que le chocolat, bah, c'est très dur. Et donc, il faut le casser. Alors, vous pouvez le casser au départ à la main avec un marteau, mais industriellement, vous n'allez pas très, très loin. Et donc, il faut des sortes d'engrenages. Et des choses pour laminer, pour écraser ce chocolat. Donc évidemment, vu que l'industrie lourde se développe ici, on va venir chercher cette technique ici. Donc la technique se développe sur place, on importe du chocolat qui vient sur place, les fèves de cacao arrivent sur place, sont concassées, à tel point qu'à un moment, la douane pour le chocolat va s'installer à côté de, enfin de, firme de, excusez-moi, juste à côté de Saint-Etienne, va s'installer à cet endroit-là pour importer le chocolat, on le dédouane ici, on le casse et ça vient du chocolat en fait.
C'est assez intéressant parce que si cette région est à ce point un véritable creuset industriel, c'est parce que s'y trouvaient à l'origine des conditions propices quand même. C'est, on n'aurait pas imaginé la même chose s'il n'y avait pas eu tout simplement du fer sur place, s'il n'y avait pas eu du charbon et s'il n'y avait pas eu en quantité de l'eau, Grégory Charbonnier.
Alors l'eau, on la trouve naturellement avec le Furan. C'est le cours d'eau qui traverse la ville. On peut le qualifier de torrent de moyenne montagne. C'est un cours d'eau... tumultueux, hein, qui a inondé la ville.
Au départ, Saint-Etienne, c'est Saint-Etienne de Furan.
Exactement.
Hein, ça vient, je lisais ça tout à l'heure, de Sanctus Stephanus de Furano. Hein, c'est
oui. Ça. Alors, la première mention qu'on a de Saint-Etienne, c'est sous ce nom-là. C'est à la fin du XIIe siècle. On peut lire ce terme dans des documents de l'abbaye de Valbenoite. Et c'est comme ça qu'on connaît Saint-Etienne à l'origine. Alors après, sur les ressources naturelles, évidemment, il y a le charbon. Hein. Depuis le Moyen-Âge, on gratte les jardins pour retrouver du charbon. Il y a effectivement l'eau, du fer, etc. Et puis aussi l'existence de Saint-Etienne, il faut noter aussi que nous sommes sur le passage entre Lyon et le Puy.
Et voilà, c'est un seuil fondamental, ça, en fait.
Un lieu de passage, un lieu où on peut se fixer grâce aux ressources naturelles. Et c'est un lieu aussi où on a des activités telles la petite métallurgie.
La ville est d'ailleurs curieusement implantée, si je puis dire, parce que très souvent on a des reliefs au nord qui protègent la ville. Là, c'est l'inverse en fait. Les reliefs sont au sud de la ville.
Oui, on a l'impression, c'est vrai, quand on arrive à Saint-Etienne, que la ville est à l'envers. C'est-à-dire que la montagne qui est censée protéger du froid est côté sud, et côté nord, en fait, on a la plaine.
Alors cette situation géographique, évidemment, a dû jouer un rôle dans le développement, dans la forme du développement de la ville. Mais à partir de quand est-ce qu'on peut estimer que Saint-Etienne est, alors j'allais dire industriel, évidemment le terme est anachronique, on est bien avant la révolution industrielle, mais à partir de quand découvre-t-on des manufactures sur place? À partir de quand est-ce que lorsqu'on s'approche de la ville, on entend tout simplement des bruits de fabrique et de travail?
Alors, Grégory Charbonnier. Dès avant la Révolution française, il y a une multitude d'activités.
Même bien avant, on peut dire, oui. Dès le 16e, en fait. Hein.
Ouais. On fabrique des armes, mais évidemment, il ne s'agit pas d'activités manufacturières. Ce sont des artisans, des petites entreprises éparpillées qui travaillent. Après, la Révolution industrielle, elle, viendra après la Révolution française. Et ben, ça sera un autre visage de Saint-Etienne.
Alors, ces manufactures d'armes, elles sont à l'origine de ce qui va devenir la célèbre manufacture d'armes, et plus tard, et de cycles, n'est-ce pas? Ce que l'on a connu, c'est l'origine, non?
Alors, il y a une confusion entre la manufacture d'armes de Saint-Etienne, qui fabrique des armes pour notamment pour l'armée française,
bien sûr, oui, et qui a fourni notamment le fusil chasse-pot, etc. Voilà. Hein.
Et la manufacture d'armes et de cycles de Saint-Etienne, autrement dit Manu France.
Alors ça, c'est autre chose.
Voilà, exactement. Ce sont deux entreprises différentes et effectivement, beaucoup de gens confondent.
Eh bien voilà, moi le premier, nous y venons dans un instant.
C'était Charlie Chaplin sur Europe 1, un extrait de la bande originale du film Les Temps modernes, sorti en 1936. Nous vous retrouvons, Franck Ferrand, cet après-midi en gare de Saint-Étienne, dans notre train Europe 1 des municipales. Vous nous parlez de la ville de Saint-Étienne avec vos invités, Pierre-Yves Guyot, muséographe à l'agence Les Charrons à Saint-Étienne, et puis Grégory Charbonnier, attaché de conservation aux archives municipales de Saint-Étienne, une émission en public.
Et nos invités viennent de m'apprendre donc qu'il y avait deux manufactures, la manufacture d'armes dont on va parler tout de suite, et puis cette célèbre manufacture d'armes et de cycles. Ça, c'est le catalogue par correspondance, hein, et c'est le chasseur français, celle-là. Bon, alors la première, la manufacture d'armes, il faut dire qu'il y a à Saint-Étienne une très très vieille tradition métallurgique, mais aussi armurière. Ça, c'est important de souligner tout ce savoir faire, Pierre-Yves Guyot.
Oui, en fait, au départ, ça va se structurer. Il y a plein de petits armuriers qui travaillent. Et du coup, l'armée va acheter 50 armes chez un, 50 armes chez l'autre. Donc, sur un champ de bataille. Voilà.
C'est venu comment? Pourquoi est-ce qu'ils se sont mis à faire des armes? Parce que c'était des métallurgistes, en fait. Hein, ça donc, oui. Au départ, c'était des armes blanches, probablement. Oui, c'est ça.
Moi non plus, j'ai pas vraiment la réponse, mais c'est vrai que cette activité s'est installée dès l'Ancien Régime.
Il y a une forme de spécialisation, voilà. Très tôt en fait, dès le XVIIe siècle on peut dire. De même d'ailleurs que sur le petit outillage, parce que je voyais que tous les moulins à café qui évidemment sont devenus tellement populaires au tout début du XVIIIe siècle et qui occupaient toutes les bonnes maisons de France et de Navarre, étaient fabriqués ici à Saint-Étienne déjà à l'époque.
Bon.
Alors, pour revenir aux armes, l'armée française va se mettre à demander des armes, mais alors en quantité évidemment, à mesure qu'on avance dans le XIXe siècle.
Hein. En quantité, et puis surtout le problème qu'ils ont, c'est que vu que c'est des petites séries, sur un champ de bataille, vous pouvez pas changer les pièces.
Et voilà.
Donc vous avez des calibres différents, donc casser un truc, vous pouvez pas le remplacer.
Il faut uniformiser
donc,
tout ça.
Et donc ils vont faire ce qu'ils appellent des modèles. On va faire un modèle d'arme qui va tourner chez les différents armuriers pour fabriquer ce modèle et que ce soit en fait un prémisse de l'industrie, on va dire, avec un modèle type que les gens copient.
Alors ça, ce sont les armes de guerre et il y a donc par ailleurs les armes de chasse, si j'ai bien compris.
Alors en 1885, il y a deux entrepreneurs qui sont restés célèbres à Saint-Étienne. Il s'agit d'Étienne Mimard et Pierre Blachon qui vont créer la manufacture d'armes et de cycles de Saint-Étienne. Et cette entreprise va produire et vendre des armes, mais aussi du cycle. C'est eux qui sont un peu à l'origine quand même du cycle à Saint-Étienne à la fin du 19e siècle. Et puis ils vont avoir des innovations.
Il ne faut pas oublier, là aussi, tout à l'heure je parlais de la révolution invraisemblable qu'a pu être l'invention du chemin de fer, mais l'invention de la bicyclette, si je puis dire, alors il y a différentes formes, dans le dernier tiers du 19e siècle, a modifié la vie quotidienne des gens. Et donc tout le monde voulait son vélo, si je puis dire. Hein. Donc c'est très important cette manufacture.
Oui, et puis ça a engendré la pratique du cyclotourisme,
voilà.
Avec Paul de Vivi, Di Villossio... qui était célèbre au début du XXe siècle. Et donc, pour revenir à Mimard et Blachon, c'est eux qui vont créer la vente par correspondance. Et on parle beaucoup des innovations métallurgiques du début XIXe siècle. Et eux, ils vont créer une innovation commerciale, c'est-à-dire qu'on vend en envoyant des catalogues publicitaires chez les gens.
Oui, et ça, je dirais que c'est quand même un aspect qu'il faut souligner, c'est qu'il n'y a pas seulement des ingénieurs ici à Saint-Étienne, il y a aussi de très bons hommes d'affaires et ce qu'on appellerait aujourd'hui des commerciaux de premier ordre. Ça a joué un rôle essentiel dans l'histoire de cette ville et de ce bassin, en fait.
Alors, Étienne Mimard est l'un d'eux. On peut en citer un autre. Il s'agit de Geoffroy Guichard, qui, lui, va créer Casino. Et notamment un système succursaliste, c'est-à-dire que la maison mère crée des petits magasins partout en France.
Alors on viendra tout à l'heure à Geoffroy Guichard, et évidemment avec tout ce que ça a pu amener. Là on est dans une période un peu plus récente. Pour rester au 19e siècle, le petit matériel, l'équipement, ce qu'on appellerait aujourd'hui, mais à l'époque il n'y a pas l'électricité, mais ce qu'on appellerait aujourd'hui l'électroménager, va devenir une spécialité stéphanoise. Cette spécialité, elle s'exporte non seulement dans toute la région, mais bientôt à l'échelle nationale et internationale. C'est dire le rayonnement incroyable de ce savoir-faire et de ces entreprises, Pierre-Yves Guyot.
Oui, tout à fait. Là, j'ai pas de chiffres sous les yeux.
Non,
mais
bien
effectivement,
sûr.
En fait, du moment où on est capable de produire, surtout d'exporter grâce au train qui nous emmène sur la région lyonnaise et après le Rhône et de l'autre côté sur la Loire et Paris, on peut exporter partout quelque part.
Oui. Et qui dit exportation dit activité économique intense, une sous-traitance très importante, donc un tissu très très serré de manufactures, d'ateliers, bientôt d'industries. sans oublier ce qui va devenir la spécialité locale aussi, c'est la rubannerie. Alors là, ça naît sous le Second Empire à peu près.
La rubannerie existe dès avant la Révolution française.
Oui.
Mais alors la rubannerie, ce que l'on peut dire dessus, c'est qu'elle se voit visuellement au 19e et début 20e siècle, car c'est un système assez particulier. Il y a assez peu d'usines à part Giron. Mais sinon, c'est un système de fabrique, c'est-à-dire le patron, on l'appelle le fabricant. Il habite généralement en centre-ville, dans des immeubles à cour, et c'est là où arrivent les fournitures. Et les ouvriers viennent chercher ces fournitures et repartent chez eux pour travailler à domicile dans des ateliers que l'on appelle des ateliers de passementerie. Et ces ateliers, ces maisons, ces immeubles sont assez particuliers parce que la machine demande des plafonds très hauts et une très grande luminosité, c'est-à-dire qu'on se trouve avec des appartements avec des fenêtres de 5-6 mètres de haut.
C'est ça, comme des ateliers d'artistes en fait.
Voilà, et c'est très recherché maintenant en tant que
logement. C'est agréable comme loft, si on peut dire, hein, bien entendu. Cette activité, elle occupe presque la moitié de la population à la fin du 19e siècle, c'est considérable. Hein.
Alors, le textile a toujours bien marché, hein, le 19e jusqu'aux années 1950. Et elle s'est progressivement diversifiée, assez ou pas assez, j'en sais rien, mais des produits plutôt nobles, style la soie, à des produits plus bon marché comme le coton, le lin, le chanvre, à aussi des équipements plus utilitaires comme le matériel médical ou sanitaire.
Alors, j'ai dit tout à l'heure qu'il y avait des hommes d'affaires de premier plan, ce sont des gens qui s'adaptent. On a vu l'importance stratégique de la manufacture d'armes. Alors là, je parle de la fabrique vraiment de fusils. Hein. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que Saint-Étienne va s'illustrer également dans l'armement lourd, dans l'artillerie, y compris dans l'armement naval d'ailleurs. Il faut le signaler, mais on est pourtant loin de la mer ici, Pierre-Yves Guillot.
Oui, tout à fait, notamment autour de Saint-Chamond et dans la vallée du Chier, où on voit être forgés les canons de marine, etc. En fait, c'est toujours la même histoire. Le savoir-faire est sur place. C'est à l'époque, quand on lit, on a l'impression que c'est un peu la Silicon Valley de l'époque. C'est l'endroit où se posent le plus de brevets en France. C'est énorme. Je sais plus, c'est pas la moitié des brevets se posent ici. Et donc, on va venir chercher le savoir-faire ici. C'est plus facile de transporter le produit fini que de transporter toute l'industrie en bord de mer.
Je me rappelle avoir lu il y a très longtemps le Tour de la France par deux enfants. Hein, et quand on arrivait dans cette région, on a l'impression qu'il y avait quelque chose de quasi mystique, puisqu'on était dans le cœur même de l'industrie française et de ce qui devait permettre la revanche face aux Prussiens. C'était vraiment ça. Il y a ici la cheville ouvrière du pays, en quelque sorte. C'est ça, Saint-Étienne. Et je pense qu'il faut avoir cette idée-là pour comprendre l'importance qu'a pu revêtir la région et cette ville en particulier, on va dire jusqu'à la Première Guerre mondiale et même un peu au-delà, d'une certaine manière. Charbonnier.
Alors,
Grégory Charbonnier.
L'activité économique, effectivement, elle est très très bonne pendant le 19e siècle. Et puis elle continue jusqu'aux années 20, quasiment jusqu'à la crise économique. Hein.
Jusqu'à 29, quoi.
Ça commence à freiner juste avant. Et puis effectivement, la crise économique va aggraver la situation parce qu'elle va révéler des faiblesses structurelles, comme par exemple l'éparpillement en petites entreprises, la faiblesse des capitaux, on n'a pas assez d'argent pour moderniser.
Est-ce que justement les familles, on n'est pas en présence, on a parlé de grands hommes d'affaires, mais on n'est pas en présence de familles très capitalistes finalement. Quelle est leur appartenance religieuse? Est-ce que ce sont des familles protestantes comme dans toutes les grandes régions industrielles?
Non, la religion, le culte prédominant, c'est clairement le catholicisme ici, pour une raison assez simple, c'est que le Stéphanois est quelqu'un qui bouge peu. Et quand il y a immigration, elle est proche, cette immigration. C'est-à-dire qu'elle vient des campagnes environnantes où la religion est quand même très présente.
Oui, vous voulez dire qu'il n'y a pas eu d'immigration industrielle majeure au tournant du 20e siècle ici?
Si, mais elle ne vient pas de très loin. Elle vient de la Haute-Loire, elle vient des monts de forêt, etc. Alors il y a eu aussi de l'immigration étrangère, hein, italienne, polonaise, nord-africaine. Mais à l'origine, quand même, ce sont des gens qui ne viennent de pas très loin.
Alors, vous parliez tout à l'heure de Geoffroy Guichard. Nous allons venir à ce personnage dans un instant, à son système de distribution et à une période beaucoup plus récente, avec malheureusement pour la ville et pour la région des revers assez tonitruants.
Vous vous trouvez cet après-midi, Franck Ferrand, en gare de Saint-Étienne, dans notre train Europe 1 des municipales, et vous nous parlez de la ville de Saint-Étienne avec vos invités, Pierre-Yves Guyot, muséographe à l'agence Les Charrons, et Grégory Charbonnier, attaché de conservation aux archives municipales de Saint-Étienne.
Oui, Pierre-Yves Guyot me disait à l'instant pendant l'interruption qu'il fallait prendre toute la mesure de l'évolution, de l'essor démographique de Saint-Étienne, qui a été considérable. Vous me donniez des chiffres assez impressionnants.
Oui, ça ressemble vraiment, les urbanistes parlent vraiment un petit peu comme le phare Ouest. Quoi.
Oui, c'est ça,
imaginez
hein.
que dans les années 1800, il y a à peine 20 000 habitants à Saint-Étienne. En 1900, il y aura 150 000 habitants. Donc il faut imaginer la Chine d'aujourd'hui, avec des villes qui grandissent à vitesse folle.
Il est vrai que la ville a changé de conformation, puisqu'elle a agrégé sous le Second Empire, en 1855, un certain nombre de communes environnantes, Grégory Charbonnier.
Ah ben là, l'accroissement de la population va de pair avec un changement d'échelle territoriale administrative. C'est-à-dire que, effectivement, Saint-Étienne, jusqu'en 1855, est une petite commune au point de vue de sa superficie, parce qu'elle est entourée d'autres petites communes qui vont être absorbées et qui deviennent maintenant, les Stéphanois les connaissent, des quartiers, c'est-à-dire Valbenois, Montaut, Outrefuge, Furent, Beaubrun, etc. Donc voilà, la commune s'agrandit, eh ben elle absorbe aussi la population, c'est ce qui explique aussi...
Et puis elle fait venir du monde de la main-d'œuvre dans toutes ces fabriques et dans toutes ces usines dont on parlait. Alors le charbon, les usines, tout ça va finir par donner, au tournant du XXe siècle, va finir par donner à Saint-Étienne l'image d'une ville sombre, une ville noire en quelque sorte.
Alors on a parfois, quelques idées préconçues ou voire des stéréotypes. Saint-Étienne, on dit c'est une ville noire parce qu'il y a de la fumée, il y a de l'industrie. C'est une ville rouge parce que c'est le feu de l'industrie, parce que c'est une ville ouvrière, donc un petit peu violente. Bon, voilà, il y a un petit peu de vérité là-dedans.
Un peu révolutionnaire ?
Bon, non, je ne pense pas que ça soit une ville révolutionnaire. De par son vote, il y a eu un intermède communiste de 1977 à 83, mais sinon ça n'a jamais été des votes soit dans un sens, soit dans un autre extrême. Il y a eu des grèves, évidemment, mais la dernière remonte à 1948, c'est la grève des mineurs.
Il y a une atmosphère et il y a une culture ouvrière quand même. On est vraiment dans un terroir ouvrier, si je puis dire, Pierre Guillot.
Non, tout à fait. Et ça reste encore visible dans la ville aujourd'hui. C'est-à-dire que par rapport à d'autres villes, la grande, je ne sais pas dire jumelle, mais la grande concurrente à côté, qu'on nomme souvent Lyon, on n'est pas dans une ville bourgeoise. C'est une ville qui a vécu l'immigration, qui est une ville jeune, on vient de le dire, hein, qui date du 19e siècle, enfin même si elle était un peu ancêtre. Et donc, ça a eu un mélange. Donc on a l'habitude voilà, de gens qui viennent d'ailleurs, qui discutent, et surtout on a l'habitude d'accueillir l'autre et de s'entraider, vu que c'était des métiers qui étaient très difficiles. Bon, on parle évidemment de la mine, mais on parle de l'industrie. Donc ce sont mis en place des sociétés d'entraide qui vont donner ensuite les choses qu'on connaît aujourd'hui.
Alors moi j'ai le souvenir évidemment de cette catastrophe, enfin, ça a été vécu à l'époque comme une catastrophe nationale, la fermeture de Manu France, mais il y a eu avant des grèves terribles, je pense aux grèves de 47-48. Alors c'était vrai dans toute la France, mais c'est particulièrement vrai dans ce bassin ouvrier par définition. Hein. Ça a été considérable.
1948, il y a eu deux morts du côté des mineurs, hein, mais pendant plusieurs semaines, les ouvriers mineurs ont occupé les mines, ont même menacé d'ennoyer les puits de mine, c'est-à-dire d'arrêter le pompage des puits. C'est-à-dire que si le puits est inondé par l'eau, il est inutilisable. Et jusque-là, les mineurs avaient toujours préservé leur outil de travail. Et là, on est passé très proche de la catastrophe.
Alors, je reviens sur les images que vous donniez. Alors, Saint-Étienne, ville noire, ville rouge, ville verte aussi. Il ne faut quand même pas négliger cette dimension très aérée de la ville.
Alors, effectivement, ça peut paraître paradoxal, mais Saint-Étienne, ville noire peut-être, mais est entourée de campagne, d'un espace rural très proche, c'est-à-dire qu'à 10 minutes...
Et somptueuse, hein,
voilà,
il faut dire.
À 10 minutes du train, je peux vous emmener dans un parc régional naturel, voilà, c'est très proche. Et puis, ville verte, et évidemment, avec l'équipe de foot.
Oui, alors ça, on va y venir dans un instant, bien entendu. Si l'on devait citer les grands urbanistes de Saint-Étienne au XXe siècle, il y a des noms qui viennent à l'esprit ?
Alors, je remonte un peu plus loin. Je parlais d'Algabio,
oui.
Oncle et neveu, qui ont bâti le Saint-Étienne moderne en centre-ville. Et puis, si on devait retenir un nom, mais deux personnes, ce sont les Lamézières, père et fils, Léon et Marcel, qui ont remodelé la ville, construit des beaux bâtiments encore utilisés de nos jours, comme par exemple l'hôpital Bellevue, qui ont tracé l'avenue à Libération, les nouvelles galeries, et dont le fonds d'archives est conservé aux archives municipales
voilà.
de Saint-Étienne.
Ça vous concerne directement, forcément, bien entendu. Il y a des noms que connaissent bien les Français, je pense à Fraissinet, Alexandre de Fraissinet, par exemple, ou à Michel Durafour, d'ailleurs.
Oui. Alors, De Fraissinet et Michel Durafour, fils d'Antoine, se sont succédés à la mairie de Saint-Étienne. Et De Fraissinet, lui, son grand œuvre, c'est l'urbanisation, c'est refaire l'habitat stéphanois qui est en très mauvais état au sortir de la Seconde Guerre mondiale. Et c'est lui qui est à l'origine, par exemple, des opérations de Beaulieu, dans un premier temps, puis après la Marandinière, Montchauvet, la Métard, En bref, les quartiers sud-est.
Oui. Alors, j'ai cité, pour commencer cette émission, le nom de Geoffroy Guichard. Tout le monde connaît Geoffroy Guichard grâce au stade, évidemment, et à l'équipe de football. Mais il n'y a pas que ça. Il faut peut-être revenir, comme vous le disiez tout à l'heure, à l'origine de ce système succursaliste. Est-ce qu'on peut dire qu'on est dans les prémices de ce qui deviendra la grande distribution, d'une certaine manière ?
On peut l'estimer, effectivement, même si ça a peut-être d'autres formes. Geoffroy Guichard, lui, va ouvrir dans un ancien casino lyrique un magasin que l'on va appeler casino. Et puis, il va développer cette forme d'entreprise. C'est-à-dire qu'il va essaimer, je crois qu'il y a quasiment 1000 succursales casino à la fin des années 1920. Donc, il va essaimer des magasins casino comme les petits casinos que l'on connaît maintenant.
Oui, et ça va évidemment donner un nouveau souffle à l'activité locale. C'est très important. Hein. Il crée un véritable empire, disons-le.
Oui, alors Geoffroy Guichard est un commerçant et Casino va aussi produire, c'est-à-dire qu'il va produire par exemple du chocolat. Hein. Il y a une chocolaterie Casino, il y a de la charcuterie Casino, il y a de la confiserie. Voilà, donc Casino est vendeur mais aussi producteur.
Oui. Alors, c'est dans ce cadre-là que va naître l'équipe de foot. Vous êtes, Pierre-Yves Guillot, l'un des muséographes, le muséographe hein, de ce musée du football. Vous pouvez nous en dire un mot ?
Oui, c'est un musée tout récent hein, qui a ouvert le 22 décembre de cette année et qui est le premier musée du sport en fait en France. Il n'y a pas de musée pour l'instant dédié à une équipe de football hein, et qui raconte justement, c'est vrai que la SSE tout le monde connaît, enfin pour les années 70, hein, mais qui raconte justement ce club qui naît en 33.
SSE, c'est AS Saint-Etienne, association sportive de Saint-Etienne. Hein. Oui. Non, je vous en prie, pardon, oui, c'était juste une parenthèse.
Voilà, donc ce musée qui retrace cette histoire à la fois sur comment ça s'est passé, pourquoi, comment ça s'est structuré effectivement avec Geoffroy Guichard, avec déjà à l'époque une volonté d'avoir un club reconnu, donc d'acheter de joueurs. On imagine que c'est très récent, en fait, déjà dans les années 30, 40, 50, hein, il va se passer ça, avec ce qu'ils appelaient l'équipe des millionnaires. Et puis voilà, des résultats qui seront des hauts et des bas, mais comme toutes les équipes nationales.
Qu'est-ce qu'on peut voir dans le musée du club ?
Beaucoup de choses, avec pour les Stéphanois et ceux qui suivent un petit peu le foot, les fameux poteaux carrés qui ont empêché la victoire en Coupe d'Europe. Et puis en clin d'œil plus affectif et plus sympa, la voiture de Kurkovic. Voilà, des petits clins d'œil. Sinon, énormément de collections, très très grosses collections. Je pense que c'est une des plus grandes de France, à ma connaissance, hein, sur un club de foot. Évidemment, maillot, ballon, énormément de presse aussi, presse, photos, et beaucoup de choses immatérielles, comme tout ce qui est film et son.
Je me rappelle avoir fait pour Canal+, il y a longtemps, un film avec Grégory Coupet. J'étais, moi, dans les cages de but, et lui a arrêté les ballons pour me permettre de raconter l'histoire de Saint-Etienne, justement. Et pendant le tournage de ce petit film, il y avait eu un monde fou qui était venu peu à peu, et qui avait envahi un stade qu'on avait pourtant choisi volontairement, très loin de toute ville, hein. Et j'avais pu mesurer l'incroyable ferveur des partisans de la S et du football d'une manière plus générale, ici à Saint-Etienne et dans la région d'une façon plus générale. Et ça, ça fait penser à ce qu'on peut trouver dans le nord de l'Italie également, dans d'autres régions industrielles, ou dans le nord-ouest de l'Angleterre, autre région industrielle. Et il y a partie liée finalement entre cette culture ouvrière et le football finalement.
Finalement, c'est la distraction par excellence de l'ouvrier, hein. D'autres personnes aussi, mais effectivement, on voit cette image dans toutes les régions industrielles, on voit des équipes de football.
Et d'ailleurs, quand Geoffroy Guichard va monter son équipe de football, elle a cette fonction-là, de se dire, l'ouvrier, sinon il va au bar, sinon c'est pas trop ce qu'il fait quand il a du temps libre, on va structurer un club, il viendra au moins au foot, au moins on saura où il est et on l'occupera.
Oui, il y a cette volonté c'est un peu paternaliste, oui, d'encadrement d'une certaine manière. Du reste, il n'y a pas que le football. On peut dire que Saint-Etienne a été importante dans l'histoire du sport au tournant du XXe siècle.
Alors évidemment, avec le vélo.
Bien sûr. Hein.
Et on peut le voir... dans les bâtiments. Par exemple, le vélodrome d'hiver est inauguré en 1925. Il va accueillir des réunions dans les 6 jours. Et puis, il y a le rugby. Alors, on parle beaucoup du football et on aurait pu avoir du rugby à Saint-Etienne. D'ailleurs, le jour de l'inauguration du stade Geoffroy Guichard, en 1931, on fait d'abord jouer un match de football. Et c'est ensuite, pour finir en clôture et en beauté, qu'il y a un match de rugby.
Ah oui. C'est un peu comme les programmes à multiples détentes à l'opéra, finalement. On a le même principe. Vous avez un certain nombre de musées. Il n'y a pas que le musée du football à Saint-Etienne. On peut visiter bien des choses. Un musée d'art moderne important. Un musée de la mine également.
Non, tout à fait. Il y a pour une petite, enfin une petite ville, pour une ville de 170, 180 000 habitants, c'est assez étonnant parce qu'effectivement, il y a le musée d'art moderne qui est la deuxième plus grosse collection de France hein, après Beaubourg, le musée de la mine,
Maurice Allemand a joué un rôle important. Hein, ça, il faut citer son nom parce que c'est lui qui, on va dire dans l'après-guerre, en fait, a donné de l'essor à, à cette collection, en fait. Hein.
Musée d'art et d'industrie, donc aussi, alors, qui a été voulu par la période, effectivement, en 19e. On voulait avoir des, bah, toujours pareil, des chefs-d'œuvre et des modèles pour que l'industrie puisse s'inspirer et garder la mémoire de son savoir-faire, donc qui a donné aujourd'hui le musée d'art et d'industrie. Qu'est-ce que j'oublie comme musée ? Musée de la mine, oui, j'en ai parlé.
Musée d'art et d'industrie, musée de la mine, évidemment. Quand on se promène dans la ville, il faut aller visiter l'hôtel de ville, qui est assez spectaculaire. Pour avoir assisté à un mariage, j'en témoigne.
Oui, alors l'hôtel de ville a la particularité d'avoir été beaucoup en travaux. On ne soupçonne pas, mais quand on se promène dans les entrailles, on voit les rénovations successives. Ah, oui. Et c'est un vrai labyrinthe.
Il y a un certain nombre de sites dédiés à l'architecture contemporaine. Ça a été un véritable laboratoire de l'architecture contemporaine, hein, cette région, liée d'ailleurs toujours à cette dimension industrielle. C'est la même histoire.
Hein. Industrielle, et puis à la fois, ce que je disais tout à l'heure, on est passé de 20 000 à 150 000, il a fallu loger les gens. On les a logés de façon un petit peu catastrophique. Si on prend les chiffres de 1960, juste après-guerre, 68% des logements n'ont pas de WC. Voilà, 95% n'ont pas de salle de bain et 20% n'ont pas l'eau courante. Donc d'un seul coup, on a pris conscience de cette paupérisation.
Il y a eu un effet de rattrapage.
Et des gros ensembles comme Firmin-Hiver, avec Le Corbusier qui vient, avec finalement, on parlait de Beaulieu tout à l'heure, avec des grands architectes qui vont essayer de trouver des solutions à la fois architecturales et à la fois sociales, en mélangeant les deux, et avec des utopies, comme Le Corbusier.
Donc une ville à l'urbanisme passionnant, une ville verte, une ville pleine de musées, avec une activité culturelle incroyable, il faut le souligner. Je dis tout ça parce que je suis convaincu que parmi tous ceux qui nous écoutent, certains ont de Saint-Étienne une image beaucoup plus réductrice. Alors il faut dire qu'il y a cette vie culturelle, notamment ici.
On a un opéra et on a un théâtre national, ce qui est assez rare aussi, pareil, dans petits endroits.
Et puis bon, cette cité du design, ça évidemment, fondamental, l'école des beaux-arts, etc. Hein,
c'est, on peut le dire, festival aussi.
Oui, on peut dire que finalement, Saint-Étienne est à la pointe d'une certaine conception du style, finalement. Et si l'on devait résumer tout ce que nous avons raconté à travers les différentes étapes industrielles de cette aventure, de cette épopée, si l'on devait chercher le point commun entre le petit outillage du XVIIIe siècle et ce qui a pu se faire de beaucoup plus récent, c'est bien le style. Il y a bien une certaine idée de la forme, du style, d'une certaine élégance dans la pratique. Il y a ça à Saint-Étienne ? Je vous vois dubitatif devant
moi. Non, je réfléchis. Il y a à la fois une relation au travail qui est particulière.
Et oui, aussi.
De l'ouvrage. Enfin, je pense que ça vient du 19e siècle et tous ces artisans. De l'ouvrage bien fait. Donc, effectivement, ça se transforme avec
le
design.
On pourrait presque dire bien fait, de la belle ouvrage, en fait. Il y a cette idée-là, en fait.
Et du coup, c'est raccord avec le design, effectivement, avec la beauté du produit, l'usage du produit.
Merci. Si vous deviez conseiller, en dehors de Saint-Étienne, un site à visiter dans les environs, dans la région, parce que, outre ces très belles réserves naturelles, il y a quand même de hauts lieux culturels ici, il faut le dire.
Alors culturel, effectivement, on peut en trouver avec le musée d'art et d'industrie. Personnellement, moi j'ai un petit faible sur le site naturel du Gouffre d'Enfer, c'est-à-dire c'est à 5 km de Saint-Étienne, sur la commune associée à Saint-Étienne qui s'appelle Rochetaillé. Et là on voit l'alliance que je trouve idéale entre la main de l'homme, c'est-à-dire c'est un barrage qui date des années 1860, et puis le site naturel, c'est-à-dire c'est les gorges du Furan.
Vous êtes d'accord, Pierre-Yves Guillaume ?
Oui, tout à fait. Mais même pour un petit clin d'œil, on en parlait tout à l'heure avec mon associé, il y a un petit côté Détroit et Berlin. C'est-à-dire qu'il y a le côté Détroit parce que l'industrie a disparu.
Ah bah oui,
voilà,
bien sûr,
il reste ce passé-là. Il y a un côté Berlin parce que c'est très, très dynamique. Beaucoup de designers sont là, de graphistes. Il y a une sorte de choses qui bougent de façon en plus assez...
Oui, sur le marasme de l'industrie, sont venus se greffer toutes sortes d'innovations. De nouveau, on peut dire qu'une fois de plus, le phénix renaît de ses cendres. Merci beaucoup, Pierre-Yves Guillot et Grégory Charbonnier. Les Stéphanois vous savent gré de tout ce que vous nous avez raconté. Merci.
Dans un instant sur Europe 1, vous répondrez Franck Ferrand à la question de Géraldine qui souhaite connaître l'origine des couleurs de quelques clubs de foot.
Retour aux origines.
Et vous répondez cet après-midi, Franck Ferrand, à la question de Géraldine. Elle nous l'a envoyée via la page Facebook de l'émission. Elle veut connaître l'origine des couleurs de quelques clubs de football.
Eh oui, alors les couleurs, mais évidemment, on va commencer par les verts. Ça me paraît naturel ici. Il faut remonter à 1919 pour savoir d'où vient cette couleur, l'année de la fondation du club. Comme beaucoup de clubs de l'époque, celui-ci au départ est donc la section sportive des employés des magasins casinos, hein, de cette chaîne casino dont on parlait. Et comme les stores, BAN, les stores de la maison sont verts, eh bien, ils vont prendre tout simplement cette couleur verte. Ça vient de là, au départ. Alors, pour les autres clubs de foot, on peut chercher ça. Je vous avoue qu'en faisant la petite recherche pour répondre à la question de Géraldine, nous avons été surpris de voir à quel point, bien souvent, les couleurs ont été décidées, j'allais dire, un petit peu au petit bonheur, la chance, quand même, il faut bien le dire. L'Olympique, par exemple, l'OM, hein, l'Olympique de Marseille, a choisi le blanc simplement parce que c'est une référence à son nom de stade olympique de Marseille. Et donc, la couleur du drapeau de Pierre de Coubertin, le drapeau de l'olympisme, tout simplement. L'Olympique lyonnais, de son côté, et le Paris Saint-Germain, les deux clubs ont choisi les couleurs bleu et rouge parce que c'était tout simplement les couleurs de la ville. Ce qui est le cas d'ailleurs d'un grand nombre de clubs. Quand vous prenez l'AS Monaco, bien entendu, pourquoi les joueurs de Monaco jouent en rouge et en blanc? Parce que ce sont les couleurs du drapeau local. C'est la princesse Grace d'ailleurs qui avait dessiné elle-même ce maillot en forme de diagonale que porte le club aujourd'hui. On pourrait parler aussi du FC Nantes. Alors là, on se demande pourquoi cette couleur jaune et vert, eh bien, ce sont celles de la casaque du jockey que montait le meilleur cheval de course, il s'appelait Ali Pacha, du premier président du club dans les années 40. Et d'ailleurs, on les appelle les Canaries parce qu'ils partagent leur couleur avec le club anglais de Norwich qui a cet oiseau pour emblème. Enfin, pour ce qui est de Lorient, parce que il faut suivre un petit peu l'actualité, on sait que Saint-Étienne va prochainement jouer contre Lorient, eh bien si les Merlus portent cette couleur tango, hein, cette couleur orange vif, c'est tout simplement parce que la sœur du président du club portait une chemise de cette même couleur au moment de la réunion de la fondation du club en 1926. À quoi ça tient tout ça ? Bonjour Elena Morna.
Bonjour Franck, bonjour à tous. Vous me manquez Franck, vous êtes trop loin dans ce train.
On arrive.
Alors on s'intéresse aujourd'hui aux contrats précaires, CDD, intérim, moustache, quels sont vos droits et vos devoirs? Que pouvez-vous accepter ou refuser? Comment requalifier un CDD ou un stage en CDI? Eh bien les réponses des experts européens, comme chaque jour, j'attends vos questions au 3921 ou sur europe1.fr, Franck.
Merci beaucoup Elena. Avant de revenir à Paris,
nous
allons essayer de profiter un peu de ce riche patrimoine stéphanois.
Vous avez raison.
Nous retrouvons demain Céline.
Oui, à demain Franck.